La Seine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, La Seine cause, André Duny, votre fidèle. Aujourd'hui, je reçois, et j'espère que vous allez écouter jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Ou en podcast, sachant que maintenant il y a une quatrième radio qui nous rejoint, hein, c'est Radio FM Couleur, Nord-Isère, Lyon, jusqu'aux Avenières. Ben justement, on est avec les Avenières.
Vérin, tu es là.
Vérin, tu es là, pardon. Maintenant la commune s'appelle les Avenières Vérin, tu es là. Et j'ai l'honneur, plus que l'honneur, de recevoir Madame Moiteux. Bonjour.
Bonjour.
C'est la nouvelle maire, surtout ne dites pas mairesse, de Les Avenières Vérin-Tuélin. Et elle est accompagnée de Madame Citruc, qui est maire déléguée, j'ai appris ce nouveau nom, elle n'est pas du tout maire adjoint, représentant quelque part Vérin-Tuélin.
Non, Les Avenières.
Ah, vous, c'est plutôt Les Avenières. Ouais. Oh, d'accord, ok, ça y est, on y est. Et il y a un autre maire délégué.
Mmh, d'accord. C'est ça.
Et alors, pourquoi j'invite, vous savez que je suis assez critique avec les élus en général, qui ne font pas le job du bien-être du peuple, gna gna gna. Alors, je suis très contente de les avoir et je voudrais dire que c'est pour un événement très douloureux. J'étais relativement en relation, disons, avec Monsieur Daniel Michou, qui était le précédent maire des Avenières Vérin-Tuélin. Au total, ça fait en gros 5500 les Avenières, et au total, ça fait presque 8000 habitants. Pas très loin de chez nous, dans notre territoire, hein, Chartreuse, avant Pays Savoyard. Et il est décédé d'un cancer assez foudroyant. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir son successeur, Madame Boiteux. J'aimerais bien que l'on parle des questions qui sont sur la table, hein, pour ce qui est de la vie démocratique, la vie municipale, le bien-être des habitants dans les communes, mais qu'on n'ait pas peur d'aborder des questions comme qu'est-ce qui s'est passé avec le boycott des élections, qu'est-ce qui se passe avec les 600-700 morts dans un petit patelin du Canada parce qu'il y a un dôme de chaleur, c'est-à-dire il y a une surpression atmosphérique autour qui coince de la chaleur dans un pays où d'ordinaire il fait 15 ou 20 degrés. Et oui, 600 morts dans un petit patelin, ça, voilà. C'est peut-être ce qui nous attend sur Pont-de-Beauvoisin, les Avenières, Saint-Laurent-du-Pont, les Échelles, Saint-Pierre de Chartreuse et tutti quanti. Et même que nous ne sommes pas ici à l'abri, je l'ai envoyé dans un message Facebook, d'un feu de forêt géant. Donc, il y a peut-être là une question que je me permettrai de leur poser. Mais alors, la première, ce serait, qu'est-ce que vous pensez qui a été fait par Daniel et par vous-même pour que le peuple ne déserte pas complètement la vie de vos trois patelins? Qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'il y ait du débat, pour que les gens s'intéressent un petit peu et que le peuple ne soit pas, disons, en retrait de tout ce qui se décide?
Déjà, je pense que c'est très bon de rappeler que la commune, c'est le premier échelon auquel les administrés, les électeurs se retournent. Donc c'est un échelon qui est très important pour eux et ils se sentent quand même la plupart du temps impliqués pour leur commune. Voilà. Mais il ne faut pas se contenter de tout ça parce que ce serait peut-être un peu compliqué. Donc la commune a mis en place, et Daniel Michou était un fervent défenseur de la communication participative et des relations citoyennes avec tous les administrés. Mmh. De façon à les associer aux grands projets de la commune, alors tels que la redynamisation du centre-ville pour notre commune. On a eu des rencontres citoyennes aussi qui se sont mises, des rencontres de quartier qui vont être mises donc après le Covid, justement pour essayer d'échanger et d'être le plus riche possible et de construire ensemble en écoutant tout le monde.
Et vous avez fait aussi des grands débats.
Et on a aussi fait des grands débats, donc après l'épisode Gilets jaunes. Voilà.
Et c'est quoi les rencontres citoyennes alors ?
Alors les rencontres citoyennes, donc, c'est souvent autour de grands sujets ou de grands projets qui se développent sur la commune. Donc on en a fait pour la redynamisation du centre-ville, donc c'était un grand projet. On a fait aussi sur le réaménagement des centres-villes. On a fait aussi des débats sur quand on a fait la commune nouvelle, etc. Et donc du coup, on expose le sujet que les élus ont réfléchi et on demande à l'Assemblée s'ils ont des questions, des interrogations, des idées nouvelles. Parce que quand on présente, rien n'est arrêté sur le sujet.
Et puis il y a ça, il y a un sujet dans la rencontre citoyenne. Et puis après, les habitants sont libres de poser absolument toutes les questions qu'ils veulent. Vous voyez,
c'est... Ce qui m'a interpellé, c'est que vous dites que vous mettez en débat quand la décision n'est pas encore prise, par exemple pour le centre-ville.
Voilà.
Les décisions, si vous voulez, ou les orientations du projet sont arrêtées parce qu'on ne peut pas partir de zéro si on veut un débat constructif, mais rien n'est figé.
D'accord.
Et puis, à votre question, je dirais aussi que Daniel Michou, c'était un maire qui était très très proche de la population et il passait son temps à aller à la rencontre des gens. Donc, et ça leur manque d'ailleurs. Voilà, parce qu'il était disponible. D'accord. Et il n'y a rien.
C'était quoi, aller à la rencontre, alors,
au bistrot, aller faire ses courses dans la ville, s'arrêter, discuter avec les gens qu'il croisait, et les gens avaient pris l'habitude de parler avec lui.
D'accord, c'était pas institué quelque part
dans
un lieu. Hein.
Non.
Pas je vous reçois chez moi, comme
pas
ici à la Bridoire,
pas du tout.
Où on reçoit.
Non, il allait à la rencontre des gens, vraiment.
D'accord. Ah, super, d'accord. Et alors, vous parlez de ces rencontres citoyennes sur ces grands sujets. Donc ça, c'était pour l'aménagement du centre-ville. Et quand vous avez fait cette grande commune avec Thuellin et Vérin, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur ces rencontres citoyennes ? C'est-à-dire, il y a du débat, il y a un animateur, il y a projection de documentaire.
Ah non, l'animateur, c'était le maire avec
les... Ah, c'est l'animateur, c'est le maire, d'accord.
Avec ses...
Voilà, avec tous les adjoints, les conseillers.
Bah, donc, c'est à la salle des fêtes que vous y êtes.
Oui, voilà.
Et là, il y avait combien de personnes ?
Ça dépendait du sujet.
Entre 20, 40, 50, ça dépend. Jamais
d'accord.
trop, mais,
ouais. Jamais trop,
mais
trop,
ceux
hein.
qui sont là, c'est des intéressés, donc c'est assez chouette.
Ouais. Ça, au moins, et la salle des fêtes, elle combien 300
questions ? Oui, facile, oui. Et ça se terminait par un pot.
Et ça se terminait par
Et c'est pot. Là que des fois les conversations les plus importantes se passaient.
Vers le pot, oui, ouais. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public. Hein, comme je vous disais hors antenne, ça va être ma prochaine question. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire participer les gens ? Donc vous dites que vous voyez, 30-40 personnes pour 7-8 000 habitants, c'est ce qu'on voit partout. Hein. C'est ce qu'on voit partout. Alors, est-ce que le peuple n'aurait pas envie de se bouger, de prendre une place ou de prendre sa place quand on lui demande son avis ?
Souvent les gens, ils ont des idées et des bonnes idées. Par contre, dès que ça demande un peu plus d'engagement ou de responsabilité, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Parce que voilà, comme dans la vie de tout un chacun, il y a le travail, il y a la famille, etc. Et les gens sont ont peut-être quelquefois du mal à laisser de leur temps pour les autres.
Pourtant, vous êtes un beau démenti, vous êtes deux femmes. Donc, une mère déléguée sur deux et une femme mère. Vous avez bien pris votre place. Qu'est-ce qui est fait au niveau des femmes, puisque vous en êtes symboliquement là les représentantes, on peut dire. Hein. Qu'est-ce qui est fait pour que les femmes, qu'est-ce qu'il a fait Daniel pour que les femmes prennent un peu plus de place dans les débats, les rencontres, et puis peut-être, il y a des commissions, non ?
Oui, il y a des commissions. Bon, après, de toute façon, comme tout à chacun, il y a l'équité qui doit être respectée quand on fait des listes électorales, quand on se présente aux électeurs. Et voilà. Et c'est vrai que Daniel Michou veillait aussi à ce qu'il y ait un équilibre homme-femme, parce que les points de vue sont des fois pas tout à fait pareils, et les priorités non plus.
C'est sûr, mais vous qui êtes agricultrice et mère, pas être évident à gérer, la question c'était plus sur, pas l'équité des listes, puisque c'est légal, c'est obligatoire et tout ça, c'était plus sur, pour la participation citoyenne dans les commissions, dans ces rencontres, par exemple pour la dynamisation du centre-ville, voilà.
En fait, là, par exemple, on a créé aussi le Conseil des sages de la commune.
Ah,
Et là, j'avouerai qu'il y a eu beaucoup plus d'hommes qui se sont manifestés, donc c'était déséquilibré.
Il était élu, ce conseil ?
Non, c'était... les gens se présentaient. Enfin, on a... Voilà. Ils se présentaient et... ils étaient...
Choisis, enfin nommés, oui, nommés oui. plutôt.
Non, mais pas. C'est... Les habitants disaient, je voudrais faire partie du,
oui, voilà.
du comité des sages, et voilà, ils étaient...
Ils étaient adoptés dans le comité des sages.
Enfin, on va dire par ça. Le conseil municipal.
Non, ils n'étaient pas...
Par le maire.
Oui, enfin, indirectement, c'est aussi une institution un peu bon enfant, oui, c'est-à-dire d'accord. que c'est un groupe de réflexion... Voilà, des personnes un peu plus âgées, et voilà, et on leur...
Ah, ça s'adressait plutôt à des gens de plus de 60 ans.
Voilà, c'est ça. Oui, à la retraite.
D'accord.
Mais Daniel Michou, il disait pas, je vais faire quelque chose de spécial pour les femmes, je veux dire, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, et voilà.
Alors, justement, une question... on veut dynamiser les centres-villes. Alors, moi, j'aime bien poser des questions qui fâchent, mais sans fâcher. Hein. Les avenirs, comme partout ailleurs, je connais un peu. Et comme partout ailleurs, comme Pont-de-Beauvoisin, j'ai connu Pont-de-Beauvoisin, j'étais élève au collège technique, 1954, d'accord. ça ne rajeunit pas.
Hein. On n'était pas nés.
Et vous n'étiez pas nés, mesdames. le Pont-de-Beauvoisin pétait la vie. Plein d'usines, plein de sculptures sur bois, plein de petits ateliers, un cinéma, petits commerces de partout. La banlieue, c'était des jardins, c'était des vaches, c'était des laiteries, c'était... Voilà. Et une des questions que je ne manquerai pas de vous poser, c'est qu'est-ce qu'a fait Daniel Michou, qu'est-ce que vous allez faire, vous, les deux, hein, pour dire qu'on dynamise le centre-ville quand l'autorisation de construire des grandes surfaces, donc les PLU, ont tout dévasté des centres-villes. Regardez Pont-de-Beauvoisin, une horreur. Regardez la Bridoire, une horreur. Regardez toutes les villes, c'est mort. Mort de chez mort. Pourquoi ? Parce qu'on a des hyper-géants dont les actionnaires font des milliards de bénéfices aux quatre coins de la planète. Ça ne développe absolument rien sur le plan local. Si, ils disent tout ce qu'ils font du local. Hein. Enfin, quand je vais à Super U, parce que j'y vais de temps en temps, franchement, le local, ça me fait doucement rigoler. Comment dire ? Est-ce qu'on n'a pas été assez vigilants en... La France est le champion du monde des grandes surfaces. Plus que deux fois la surface de la Corse. En surface bétonnée, égoudronné en grande surface en France. On en a trois fois plus qu'en Italie, qu'en Allemagne. Enfin non, l'Allemagne est en train de nous rattraper. Pétard, une fois qu'on a tué les centres-villes, on se dit, il faut les réhabiliter. C'est pas possible de les réhabiliter puisque tout le monde prend sa bagnole, son caddie, et s'en va faire ses courses. Et puis il y a tout. Il y a maintenant les coiffeurs, les galeries marchandes. Vous avez absolument tout. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder en centre-ville où on ne peut pas se garer? Il n'y a rien à faire.
Oui, mais, un côté positif de la pandémie, c'est que ça a changé un peu le regard des gens.
D'accord.
C'est vrai, les commerçants nous disent, depuis qu'il y a eu l'épidémie, les gens ont un peu changé leurs habitudes.
Et puis, alors, Daniel a voulu dynamiser, Daniel Michou, hein, a voulu dynamiser le centre-ville des Avenières. Comment vous faites alors de ce point de vue-là ? C'est une mission quasi impossible aujourd'hui.
Ça a été une mission très compliquée, mais en tout début de mandat, donc, quand il s'est présenté en 2014, donc, il a fait une grosse étude pour voir un petit peu les faisabilités d'adaptation du centre-ville. Et donc ensuite, on a passé à l'œuvre. Donc son but aussi à travers la redynamisation du commerce, parce qu'ouvrir des commerces, c'est bien, mais si on ne donne pas un brin de modernité... un brin de modernité, etc. Et quelque chose d'attrayant pour la commune, on n'arrivera pas à faire venir des commerces. Donc ça a été déjà, on fait que notre commune, elle soit pas dans un coin de la campagne, mais non, on a 8000 habitants, on existe, on est là, et on a un véritable atout. On est près donc du coup des grandes voies de circulation par la 1075 qui est traversée, que Vérin-Tulin est traversée. Et donc du coup on a Walibi aussi qui est un gros acteur, et on s'est dit il faut qu'on valorise notre commune. Donc ça a passé par ça. Donc je ne sais pas si vous avez retraversé les Avenirs Vérin-Tulin, mais les deux centres-bourgs ont été magnifiquement repensés, retravaillés, et c'est fort agréable aujourd'hui d'avoir une petite forêt en centre-ville, même si c'est un peu critiqué par chacun, mais c'est aussi apprécié quand il fait très chaud maintenant. Et voilà, donc
c'est... Donc c'est, ça fait partie de l'œuvre commune du conseil municipal et de Daniel, oui, d'avoir mis une petite forêt dans le centre-ville.
C'est ça. Ouais. Qui est un espace ouvert à tout le monde et à toutes les générations. En fait, d'accord, c'est ça qu'on veut, c'est un espace de convivialité. Et ensuite, une fois que ce projet d'embellissement de la commune est fait, en parallèle, il y a eu une redynamisation des commerces. Donc là, on a fait appel à la chambre aux chambres consulaires, hein, la chambre des métiers, l'artisanat et de l'industrie. Mmh. Et on leur a demandé de nous accompagner dans un accompagnement pour les commerces, pour essayer, pour motiver les commerçants à se reposer des questions sur comment ils accueillent les gens, comment leur commerce fonctionne, est-ce qu'il ne faut pas moderniser leur commerce en faisant, je ne sais pas, de la proposition de la vente en ligne, etc. Enfin bref, et voilà, donc il y a eu un vrai accompagnement, et aujourd'hui, l'accompagnement très concret qui dure depuis 3 ans maintenant, c'est qu'on finance une modernisation ou une rénovation de magasins à la même hauteur que la région. Donc c'est plutôt très chouette, et aujourd'hui on est à 13 projets financés sur la commune pour aider nos commerçants.
Rénovation de 13 commerces de centre.
Voilà. Chaque commerçant...
Problème pour le parking et tout ça, c'est-à-dire les déplacements, qu'est-ce qu'il a prévu?
C'est ce que j'allais vous dire. Alors nous, on n'est pas concernés trop, parce qu'on est quand même une petite ville, mais à la campagne vraiment. Et les places de parking, c'est pas ce qui manque. On a plus de 300 places de parking dans le centre.
600
places,
oui,
de parking,
ouais,
dans le centre des Amiens. Donc vous vous garez d'un côté ou de l'autre, vous êtes à moins de 4 minutes à l'autre bout. Donc voilà.
Ouais. On va vous dire que c'est pas très écolo. Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre? Parce que si on met au centre-ville, c'est pas pour y se rendre en bagnole. On va en bagnole pour aller avec son caddie dans les grandes surfaces à l'extérieur de la ville. Mais le centre-ville, est-ce qu'on a fait des cheminements vélo-piétons, enfin des choses doux, comme on dit, qui permettraient d'alléger un peu les fumées?
Alors du coup, on a fait... Alors quand on a fait la commune nouvelle, concrètement, et pour fusionner concrètement ces deux communes, on a fait une liaison piétonne, donc qui part des Amiens vers Antuélin et qui part de Verantuélin et qui va jusqu'aux Amiens. Donc là, c'est une voie douce, piétonne, vélo. Voilà, et tout le monde peut aller faire ses courses, enfin, à pied, sans...
Mais en centre-ville, vous avez fait des couloirs à vélo.
Et en centre-ville, on a mis une zone 30, et c'est un peu une zone partagée dans la grande rue de Sia.
Voilà. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Avenirs vers un Tuélin, on a une superficie de 42 km². C'est énorme. Donc, quelqu'un qui habite à Tuélin, il ne peut pas aller faire ses courses à pied aux Avenirs. Enfin, je veux dire, c'est...
Ça fait combien de kilomètres de Tuélin au centre des Avenirs? Tuélin, il n'y a pas tant de commerce que ça.
Hein. Tuélin, il n'y a pas de commerce. Et à Virin, on a quand même un petit peu une boulangerie, une épicerie, un magasin d'électroménager, bientôt un bar-restaurant.
Si quelqu'un, par exemple, un peu intrépide, son petit vélo électrique...
Ah, il peut, bien
et
sûr.
Et prend ses deux sacoches ou son sac à dos... et veut aller faire ses courses au centre-ville en se disant « j'ai décidé de plus aller dans les grandes surfaces, de les boycotter. Mmh. » Hein, il n'y a pas pire ravageuse que les grandes surfaces. Hein. Elles doivent 400 milliards à l'État. 400 milliards. Elles n'ont jamais payé leurs extensions, leurs droits de... Enfin, 400 milliards.
Faut pas jouer.
Mais depuis, 50 ans. Hein. Elles ont corrompu les partis politiques. On ne va pas parler de politique, mais elles ont arrosé les partis politiques. Hein. C'était 300 000 euros pour ouvrir une grande surface à deux élus, et maintenant c'est 3 millions d'euros. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, j'en ai parlé dans d'autres émissions, c'est l'art de... ça a été ce qui a le plus corrompu le personnel politique. On ne parle pas de l'affaire Urba avec le PS, tous ces trucs-là.
Non, on n'en parle pas.
On n'en parle pas, puisque ce n'est pas le sujet. Mais, justement, pour encourager les gens qui, comme moi, ne veulent pas de grandes surfaces, on peut quand même aller de la banlieue, on peut dire la banlieue, parce que je suis allé faire une animation à la MJC, on peut aller du sud des Avenirs, en venant de Saint-Genis, vers le centre-ville, à vélo,
bien sûr,
à l'aise,
à
l'aise, à l'aise. Ouais, j'ai pas vu, moi, de passage...
À l'aise, je sais pas, mais...
Non, on se fait emmerder par les voitures, hein, quand
même. Oui, il y a les voitures, mais on peut pas non plus faire des voies tout vélo et supprimer les voitures. Enfin, je crois qu'il faut rester réaliste dans un monde où on vit aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, bien sûr qu'il faut faire des voies douces et des voies piétonnes, mais je pense que là-dessus, on n'est quand même pas trop mal desservi. On a aussi, vu qu'on est une commune étendue et rurale, il y a aussi des petites routes qui passent par les hameaux, qui sont périphériques et dont on peut arriver aussi au centre-ville.
À vélo, donc, sans se faire...
nationale.
Après, et il y a votre fameuse liaison piétonne-vélo, mais ça fait combien? Elle fait combien? 4-5 km? 6-7?
Ouais, non, 4 km.
4 km, d'accord.
3, peut-être.
Donc ça permet à quelqu'un où il n'y a pas de commerce, Vérin, de se rendre au centre-ville de...
Des
Avenirs.
Mais à Vérin, il y a des commerces et aux Avenirs aussi.
Oui, d'accord. Tuélin, les Avenirs, ouais. Ou Tuélin, Vérin. Et dites-moi, une des questions clés que nous pose le changement climatique, c'est pas un changement, hein, c'est une catastrophe. Catastrophe, une accélération de catastrophe, dont on a les premiers maintenant éléments, les incendies géants, les communes qui sont sans eau et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Daniel, pour que... Alors, je vais poser deux, trois questions. Hein. La première, c'est pour l'eau, une eau propre, puisque là-bas, autour des Avenirs, je connais bien les pommes du bouchage. Allons-y pour le Roundup. Hein. Il s'en est déversé des dizaines de milliers de tonnes.
On est à une commune à zéro phyto.
Ah, il l'a fait, zéro phyto.
Il l'a fait.
Et il n'a pas été embêté par les agriculteurs et les agricultrices?
Non. Alors attendez, il faut remettre les choses un peu en place. Une commune, quand elle s'engage au zéro phyto, c'est la commune qui s'engage
qui
au zéro phyto.
Qui ne met pas de Roundup pour enlever les mauvaises herbes sur les trottoirs.
Mais en aucun cas, elle oblige ses agriculteurs à ne pas... Et ses agriculteurs, et j'ai envie de rajouter, et tous les petits jardiniers...
Oui, qui mettent quatre fois la dose, comme mon père. Voilà, je sais, d'accord. Hein,
donc voilà, faut pas non plus... Voilà. Et donc, du coup, voilà,
la
commune passe zéro phyto, mais c'est pas pour ça que les agriculteurs et que les petits jardiniers sont au zéro phyto.
Et vous avez pris la zone de 150 mètres ou 200 mètres, 300 mètres de la commune pour pas arroser les habitations périphériques.
Mais de toute façon, les agriculteurs savent exactement ce qu'ils ont à faire et ils doivent être respectueux des règles qui sont en vigueur au niveau de...
C'est 5 mètres, la règle.
Oui, c'est 5 mètres, oui.
Ouais, catastrophe.
Et pour l'eau,
tout se discute.
Quand la grande rue a été refaite, en fait, toutes les canalisations pour la récupération d'eau de pluie, tout ça, c'est tout, tout est aux normes maintenant, parce qu'il y avait encore des tuyaux en plomb.
Oula, oui.
Et vraiment, ça a fait... la grande rue, la pauvre, elle était bien malmenée pendant ses travaux, mais ça y est, maintenant, tout est
il
à jour.
Alors, il a fait combien de mandats déjà, Daniel? 3, 4?
Non.
Et il a commencé le deuxième.
Ouais, c'est ça. Ah, je croyais qu'il en avait fait deux.
Non.
Deux
il a été élu avant, de 75 à 80, de 77 à 80.
Il était maire adjoint avant.
Non,
il était simple conseiller municipal, d'accord. Ouais. Et alors, oui, moi je suis très sensibilisé à ça parce que j'allais faire des émissions à Cray. À Cray, Mariton, député maire. Lui, il n'a jamais rien fait pour les canalisations. Et il y a énormément d'enfants qui souffrent de saturnisme et qui sont devenus débiles mentaux. Entre guillemets, débiles mentaux, parce que c'est de la petite débilité. Mais quand vous bouffez du plomb, ben voilà ce qui se passe. Ben bravo. Donc ça a été fait sous son mandat. Toute la rénovation des anciennes canalisations au plomb.
Donc l'eau circule dans
des canalisations propres. Mais l'eau, est-ce qu'elle est propre en...
Oui, l'eau elle est propre. Non, attendez, il faut pas tout mélanger.
Alors ça marche comment les captages aux abeilles?
L'eau elle est propre, l'eau elle vient du syndicat des eaux, donc des abrets qui en a la gestion. Et
c'est les abrets qui font la gestion.
Et les analyses sont très régulières et là-dessus on peut pas avoir l'ombre.
Non, c'est Veolia qui fait les analyses. L'ARS fait les analyses détaillées.
Non, c'est le centre, c'est le syndicat des eaux des abrets.
Ah d'accord. Et qui distribue chez vous? Et ils prennent l'eau où les abrets?
Paladru.
Hein?
Paladru. Le lac de Paladru.
Ah, ils pompent dans le lac de Paladru.
Voilà, mais c'est un grand réseau. Hein. Ça va loin. Ça va encore plus loin que chez nous. Et ça va de l'autre côté jusque Paladru et de l'autre côté.
Eh ben moi qui me bats pour que on ne prive jamais Chambéry. Et tout le sud-Isère du côté de la Vampire Savoyard, des eaux propres et buvables du lac d'Aigbelette, sachant qu'autour du lac d'Aigbelette, il y a beaucoup de vaches, et qu'une vache avec 120 litres par jour, vous savez, en deux mois, quand il fait chaud, ça a fait du volume. Elles boivent l'eau du lac, moi aussi. Moi aussi, mais depuis que Veolia, dans ma commune, parce que ma commune est Tintin, elle a contracté avec Veolia, on avait l'eau la plus pure autour du lac, parce que du Mont Grêle, et maintenant, on a une eau qui était pure, elle passe par Veolia, qui met de la Javel. Et l'eau, elle est passée de 0,80 euros en 5 ans à 3 euros. Alors qu'elle est en abondance. Hein. Là-bas, il pleut sans... Bien, donc l'eau est propre. C'est le syndicat des eaux de Paladru. Et Paladru n'est pas pollué.
Non,
il n'y a pas un peu de
phosphate.
Après,
il y a des analyses. Écoutez, je ne sais pas.
C'est à peu près propre, Paladru.
Bah oui, de toute façon...
Parce que Golette, c'est nettement plus propre que Paladru.
Je sais pas.
On va peut-être mettre un tuyau si jamais ça tourne mal dans les eaux d'Aigbelette.
Non, moi je polémique pas là-dessus. Il y a des instances compétentes pour ça.
Tout à fait.
D'accord. Et voilà, il y a un moment.
Ça c'est pas toute votre compétence.
Du tout.
Pour manger propre aux avenirs, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la santé, le maire et les élus régionaux, ils sont quand même en charge de la santé et départementaux, la santé de la population. Bon, les régions, c'est la cantine des lycées, le département la cantine des collèges, vous la cantine des écoles. Et je tombe là sur la question, j'espère qu'il ne fâche pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour monter le taux de légumes et de produits biologiques aux cantines des avenirs pour que nos enfants aient une bonne santé?
Alors, on
ne soit pas obèses, parce qu'actuellement, il y a quand même, vous avez vu ça, un tiers de nos enfants sont entre obèses et en surpoids, en grave surpoids.
Oui, alors là-dessus, justement, il faut peut-être aussi... Les cantines, toutes les cantines scolaires, de toute façon, sont tenues, que ce soit en liaison froide ou en gestion directe. Souvent, il y a un nutritionniste et il y a des normes Donc là-dessus, oui. Au niveau de l'équilibre des repas de cantine, je pense
l'équilibre,
que
l'équilibre, ok, mais la provenance.
Tous les écoliers qui mangent à la cantine, je pense qu'ils ont un repas qui soit équilibré. La provenance, on y fait quand même de plus en plus
c'est
attention.
C'est une régie publique.
Alors nous, c'est une régie publique, voilà. C'est
bien.
Une,
c'est un. C'est bah, ce
non, c'est une
dit.
Régie publique. Non, alors c'est pas une régie publique gérée par la commune. Par contre, on est en liaison froide. C'est différent. On se fait livrer les repas. Par contre, on vient de renouveler le cahier des charges et on est très vigilant. Donc, on a au moins un repas bio par semaine à proposer à nos enfants et le reste du temps, donc, ils s'approvisionnent
donc,
dans
un.
Un dans
parfum, un... c'est 20% de bio, voilà. Alors. 20%.
Ouais. Et du coup, ils
s'approvisionnent. 5 jours par semaine, c'est ça, les repas.
4 jours.
4 jours.
4 jours par semaine.
25%. Donc, 25%.
Voilà.
Et le bio, il provient d'où ? De chez Alania ?
Non, le bio, c'est toute la liaison froide. Alors, tous les approvisionnements, voilà, ils ont des plateformes. Ils ont
c'est
des
la plateforme Isère, hein, d'Agribio
Isère,
là.
Oui, bah là, c'est à Rieux-la-Pape. Donc, ils se servent aussi de l'Isère, mais d'autres aussi. Et ils ont un rayon d'approvisionnement de 100 km.
C'est pas la plateforme Isère du Conseil Général qui fournit.
Bah, disons que le. Enfin, nous.
Vous prenez plutôt du côté de Lyon.
Et bien, bah, du coup, la plateforme où on réserve, c'est. Ils sont à Rieux-la-Pape.
Donc la liaison froide, ça vient de Rieux,
ouais,
jusque chez vous.
C'est ça.
Rieux, où est la plateforme.
Voilà.
Et ils s'approvisionnent dans
voilà.
un rayon de 100 km
après,
à peu près de Rieux. Hein.
Voilà. Après, il y a. Voilà, il y a beaucoup de producteurs aussi autour de Lyon.
Donc hein. un repas sur quatre bio.
Ouais.
Ça veut dire que vous êtes à 25%.
C'est ça.
Ce qui est pas mal.
Bah oui.
Beaucoup de communes sont à. Moi, quand j'ai quitté Valence, c'était à 6%.
Et après, on reste vigilant sur l'approvisionnement des produits.
Et alors, qu'est-ce que vous faites pour encourager l'implantation d'agriculteurs bio en périphérie de la commune, comme par exemple Moinsartou, que je n'arrête pas de citer, à tout bout de champ. Moinsartou, hein, hein, vous savez, ils ont 10 000 habitants, un lycée qui a 2, 3 collèges, 4, 5 primaires, et c'est 100% bio depuis 2009. Ils ont installé, ils ont reversé des terres qui étaient constructibles, 300-400 € le mètre carré, hein, la banlieue de Cannes. Hein. Ils ont remis en terre agricole 0,3 € le mètre carré, rien du tout, la terre agricole, ça vaut rien, c'est ça le désastre. Et ils ont maintenu ces terres en propriété communale. Théoriquement, ils doivent les reverser aux agriculteurs, ils les ont gardées. On s'arrange toujours avec un préfet.
Ouais, ça c'est vous qui le dites.
On peut s'arranger. Ils se sont arrangés et ils ont installé des employés communaux dans les serres et en plein air aussi, hein, parce que la nourriture en serre est moins bonne.
On a suivi ce qu'ils avaient fait.
Ça peut être une solution.
Oui.
Ça peut être une solution.
Et est-ce que vous envisageriez cette solution de ce qu'on appelle une régie publique alimentaire, comme il y a une régie publique de l'eau ?
On en parle, c'est pas si
simple. On en parle, hein, c'est dur. Hein.
C'est pas si simple que ça aussi.
Ça renverse toutes les habitudes.
Juridiquement, économiquement, c'est pas si simple que ça. Donc
non.
Il faut le réfléchir et prendre le temps de la réflexion.
On voilà. peut dire que ton exploitation est en bio ?
Oui.
Voilà.
Ah, ben voilà.
Donc,
et ben voilà. Qu'est-ce que vous faites pour encourager la petite agriculture familiale ? Paysanne, comme on dit, hein, l'agriculture paysanne. Moi, je suis un ami de la Confédération paysanne. Pas politique, hein, mais qui se bat contre l'agriculture industrielle qui dévaste 90% de la France. Hein, beaucoup plus en Allemagne. Puisque maintenant, en Allemagne, hein, on va avoir des poulaillers de poulets de chair à 28 jours, 1 600 000 par poulailler. Nous, dans l'Ain, je dis nous dans l'Ain parce que j'ai travaillé dans l'Ain, on a un poulailler, hein, vous avez eu le scandale là, il y avait tellement de poulets morts que L221 avait fait un film, il y avait 330 000 poulets, l'horreur. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire pour faciliter, alors à Moinsartou, le fait d'avoir fait une régie publique alimentaire avec une légumerie et même une conserverie municipale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agroalimentaire qui fait la conserverie, c'est la commune qui a son usine de conserve. Incroyable! Alors on me dit, ah c'est soviétique, non, c'est municipal, démocratique, et ça en France. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou qu'est-ce qu'on fait aux avenirs dans ce sens-là, pour essayer d'encourager au moins qu'un max d'agriculteurs bio se mettent en périphérie de la ville, pour augmenter la proportion du bio en local, peut-être se passer de la plateforme de Rieux, je ne sais pas. Hein. Parce qu'il y a des villes qui se passent de la plateforme.
Oui,
hein.
Oui.
Morestel, à côté de Morestel.
Oui, à Cray.
Eh ouais.
Oui, après, il faut savoir que nous, sur notre commune, c'est minimum 800 repas jour. Donc,
800 repas.
Voilà, c'est
pour les primaires et le collège.
Non, le primaire seulement.
Que le primaire.
Vous faites que le primaire.
Oui,
Et le reste, le collège, le lycée, c'est fait par qui, le
collège, c'est compétence départementale. C'est pas nous.
Et donc, vous ne savez pas du tout quelle est la proportion
non, mais
et vous
ne
collaborez pas pour les repas.
Ben non, là, non, ah ouais, jusqu'à d'accord. présent, non.
Il y a un lycée aux Avenirs, je ne sais pas trop.
Non,
il vous a, ils vont apprendre vos voisins
à Morestel.
Ils vont à Morestel. Ah oui, c'est vrai, le grand lycée de Morestel. Mmh. Ouais, c'est pas très loin, oui. Mmh. Ouais, c'est quand même loin. Hein.
Non.
Il y a une dizaine de kilomètres.
Même pas.
Et les enfants, de, ils mangent quoi en bio au lycée de Morestel?
Ah, je ne sais pas. Je n'en sais rien.
D'accord. Et là, donc, ma question, je reviens, oui. Qu'est-ce qu'a fait Daniel et qu'est-ce que vous faites, vous envisagez de faire pour bloquer des terres agricoles avec les SAFER afin qu'elles soient données ou encouragées à l'installation de jeunes? Moi, je suis à Terre de Liens, par exemple.
Ça se fait pas vraiment comme ça. Donc, bon, la commune des Agnières-Vérin-Tuélin, on a beaucoup aussi de... On a beaucoup de terres en propriété.
Hein, donc, ah voilà, donc, les terres communales.
Dont on a du bail. Et c'est vrai que le jour où on décidera de reprendre des terres éventuellement pour installer quelqu'un, il suffira que...
Quand
le bail se termine, voilà, on puisse...
C'est difficile hein, de dénoncer un bail. Hein.
Voilà, c'est très compliqué.
On ne peut pas jeter un agriculteur qui fait 30 ans qui cultive les terres de la commune pour lui dire, voilà, on va installer du bio. Par contre, vous pouvez l'encourager à passer en bio.
Voilà, on peut l'encourager.
Une petite subvention, par exemple.
Oui, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que le bio, on ne passe pas pour des sous, on ne passe pas pour des subventions.
C'est, le vrai bio.
C'est une idée.
Mais maintenant, c'est le bio-industriel.
Non, je ne suis pas d'accord.
Ah bah, il y a une usine de 60 000.
Non, je me défends là-dessus.
Ah, mais il y a une usine de 60 000 poules pondeuses en Allemagne bio, maintenant.
Non, bah voilà.
Bah, allez à Eure, dans la Drôme, et allez voir l'usine à œufs bio de la Drôme. Non. C'est de la merde, mais bio-industriel.
Ouais, bah, si vous voulez, mais il y a...
Vous faites artisanal.
Il y a la bio et le bio, et ce n'est pas pareil. Ah bah, absolument. Il y a une grande différence.
Ah oui, mais le pognon se met dans la bio-industrielle.
Eh oui, et bah, chacun d'être vigilant.
Non, à que peu un maire.
Non, non, le maire n'a pas tous les pouvoirs dans... Non. Moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, on a fait la conversion en bio, donc je suis d'accord. On n'a pas attendu sur le maire pour nous dire « Eh, ça serait bien de passer en bio. » Si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de passer en bio, qu'est-ce que vous voulez passer en bio ? Si vous y allez que pour l'argent, mais moi, je vous laisse 5 ans, puis vous vous plantez. C'est une obligation.
Madame le maire.
Voilà.
Madame le maire.
Madame le maire, elle est déterminée, alors attention.
Eh ben, battez-vous. Oui, je vois que vous avez du punchy, comme disent les jeunes, du punchy. Et puis, mon émission, il faut que ce soit punchy, hein, n'est-ce pas ? Parce que moi, je suis un vieux croulant. Vous vous rendez compte ? Je suis né, vous n'aviez même pas encore. Bon, bref, vos parents n'étaient encore pas nés. Lons le Saunier.
Oui.
35 000 habitants.
Oui.
Qu'a fait la mairie ? De droite. Donc, on ne discute pas.
Non.
Je prends les exemples partout. La mairie a dit on ne peut plus traiter l'eau tellement elle est dégueulasse à cause du maïs atrazine, cancérogène, reprotoxique, perturbatrice, endocrinienne. L'atrazine, il y en a partout. Il y en a dans l'eau des avenières. Mais je vous donnerai les références.
Je ne vous...
Il y en a partout de l'atrazine. Il y en a même à Novalaise. Il y en a partout où on a fait du maïs, il y a de l'atrazine. Dans l'Ain, les puits, ils n'arrivent plus à traiter. D'ailleurs, on ne peut pas traiter l'atrazine. Ça coûterait trop cher. Et puis, c'est très mauvais. Il nous reste 10 minutes. Une question délicate, parce que l'eau, c'est la première alimentation. La deuxième, c'est quand même que nos gamins mangent le plus possible bio. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Lons-le-Saunier ? Eh bien, ils ont dit, on ne peut plus traiter l'eau. On ne peut pas la traiter. Donc, qu'est-ce qu'on va vous faire ? Eh bien, ils ont demandé à tous les agriculteurs dans un rayon de 8 km de passer en bio. Et si vous demandez aux agriculteurs de passer en bio... Parce qu'on vous a dit, on vous donne 300 euros par hectare si vous passez en bio. Eh bien, ça a certainement joué un rôle, puisque Lons-le-Saunier, sa cantine, est 85% bio, 35 000 habitants. Est-ce qu'un maire ne peut pas dire, écoutez, les terres périphériques, puisque beaucoup de terres communales, moi, petit Duny, hein, je vous rappelle qu'à Arandon, mon père faisait de la coupe de bois gratuite. Nos chèvres allaient sur des pâtures gratuites. Je rappelle que moi, je ramassais des fruits dans des vieux vergers plus ou moins abandonnés. L'agriculture partait en eau de brioche, hein, entre 45, 50, 55. Tout partait en eau de brioche. Et il y avait un étang à carpe.
Oui, bien sûr.
À Arandon.
Il y a encore.
Et donc, on s'est nourri étant ultra pauvre dans ce qu'on appelle les communaux, c'est-à-dire des biens communs qui appartiennent à tous les habitants des avenières. Voilà un beau débat. J'en ai parlé quand je suis venu à la MJC. Et pour le climat, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, en tant qu'élu en charge de 8000 personnes, s'il y a jamais au-dessus de ce coin-là, et il y aura, d'après ce que dit le GIEC, hein, les 2500 chercheurs, pas payés par les industriels, hein, payés par l'ONU. Ils t'arrachent les cheveux, là. Ils ont fait fuiter leur rapport à début 22. Et là, ils disent, mais on va vers des catastrophes que illustre bien l'histoire du Canada. Si on a un puits de chaleur à 50 degrés pendant 10 jours, avec tout qui brûle, hein, les champs de blé, qu'est-ce qu'on va faire ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une grande question qu'il faut que chacun ait dans un petit coin de sa tête et essayer d'améliorer. Alors certes, on essaye de... Nous, au niveau commune, hein, on essaye de rénover nos bâtiments avec des matériaux qui respectent l'environnement.
Qu'est-ce que vous aviez choisi avec Daniel ?
Voilà. Du coup, c'est notre fil rouge. Donc,
Daniel Michaud, le maire que vous remplacez.
Oui. Tous les bâtiments qui ont une rénovation, on essaye de faire ça avec des matériaux.
C'est quoi, du chanvre ? De la paille ?
Non. C'est plus des fois aussi de la laine de bois.
Polystyrène ?
La laine de bois.
Pas
aussi,
polystyrène.
Non.
Bravo !
Mais donc, du coup, il faut faire attention quand même. Après, on essaye d'isoler.
C'est plus cher.
Oui, et puis on essaye d'isoler, du coup, en changeant les ouvrant.
Donc vous aurez des endroits pour mettre les gens à l'abri de la chaleur ?
Alors on a des pièces qui sont pas climatisées mais on va dire plutôt réfrigérées. On a une colline aux oiseaux, donc c'est un foyer logement pour les personnes âgées. Donc là, depuis 2003, du coup, il y a des pièces qui ont été réfrigérées. Donc du coup, les personnes peuvent déjà se mettre à l'abri, entre guillemets, dans ces pièces-là. Et ensuite, on a un registre avec toutes les personnes vulnérables et qu'on contacte.
Vous avez déjà fait ce travail de recenser des personnes qui pourraient accueillir parce qu'elles ont la clim chez eux.
Voilà. Et avec les facteurs, on a aussi un partenariat, enfin avec la poste, on a aussi un partenariat pour en cas de grosse... Enfin, que ce soit de canicule ou de coup de froid. Voilà. On a ce partenariat.
Et des arbres au centre-ville.
Voilà. Et des arbres au centre-ville.
Les meilleurs refroidisseurs, n'est-ce pas, les arbres ?
Tout à fait. On essaye de végétaliser.
Et pourquoi pas une ceinture verte ?
Oui,
ceinture verte agricole, mais en permaculture, c'est-à-dire agroforesterie, quoi.
La ceinture verte,
encourager les agriculteurs à cultiver sous des arbres.
La ceinture verte, on l'a déjà pas mal, hein, je veux dire, on est en bord du Rhône, on a notre réserve nationale du Haut-Rhône, qui a déjà une grosse ceinture verte.
Le parc Walibi là-bas.
De l'autre côté, côté Rhône, côté
du bouchage.
Walibi, mais aussi côté Walibi, on a quand même beaucoup
donc
vert.
Donc on pourra se refroidir les pieds dans le Rhône.
Oui. Avant que nous, on grille, il y en a d'autres qui vont griller avant nous. Enfin, voilà,
on a un très bel environnement.
Oui, voilà. C'est vrai, les Launes.
Voilà, c'est ça, tout ce travail-là. Voilà.
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à faire contre le réchauffement climatique ? Donc, vous isolez les bâtiments communaux, vous avez planté des arbres au centre-ville, vous avez fait une voie piétonne. Est-ce qu'on pourrait pas aller un petit peu plus loin de...
Il y a sûrement...
De végétaliser tout autour des... De reprendre tous ces trucs communaux.
Oui, alors après...
Faire un lac artificiel.
Non.
Parce que vous allez vous baigner à où, vous, alors ?
À Romagneux.
Et voilà.
On a une piscine aussi.
Et on a une autre piscine. Non, mais...
Ça coûte la peau des fesses, une piscine.
Oui, piscine municipale.
Ouais. Ou alors on va à Walibi, et on, quand mon fils était petit, je l'emmenais des fois, on se rafraîchit vite à Walibi.
Oui, voilà aussi, aussi. Non, mais bon, après, je pense qu'on est dans un environnement où on peut quand même...
Oui, il y a quand même de l'eau tout autour.
On peut quand même trouver de la fraîcheur assez rapidement, et quand on fait des parkings, donc on en a fait un quand on a aménagé notre centralité, on n'a pas fait un parking goudronné, on a fait un parking
en
nid d'abeilles et végétalisé.
Ah,
voilà.
Bien.
Et donc ça, c'est
ça, il faudra en mettre partout, quoi. Hein.
C'est, ouais,
on peut pas faire
non,
une
partout,
ville verte un peu, non ?
Partout, je sais pas, parce que je pense que ça ne peut pas s'adapter partout, mais c'est vraiment des solutions qui sont très, très, très intéressantes.
D'accord. On revient à la dernière question, celle qui fâche le plus, alors, c'est que vous envisagiez, sur la base qui a déjà été faite dans votre mandature avec Daniel Michou, qu'est-ce qu'on va faire pour que le peuple, qui est très en colère... Les gilets jaunes, ça repart, j'en reçois trois là tout à l'heure, ça va repartir sous une forme ou une autre. Est-ce que ce peuple très en colère, qui est coincé par les 10% d'augmentation du gaz, les 10% pour l'électricité, les loyers qui n'arrêtent pas de flamber, ils sont coincés, l'essence à 1,65 maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que toutes les dépenses contraintes sont dingues, par contre les salaires, nib, nous sommes dans le capitalisme triomphant. Mondialisé, avec une seule bonne nouvelle quand même. Après que tout le monde ait refusé, qu'il soit bien battu, les multinationales sont maintenant taxées à 15%, à partir de 23. Si elles font plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, et si elles font plus de 10% de cash. Donc ça a beaucoup qui vont y échapper. Mais c'est un progrès extraordinaire qui vient d'où ? Du pays le plus capitaliste du monde, les États-Unis, Joe Biden.
Oui, après, il faut faire attention à toutes ces idées un petit peu reçues. Aujourd'hui, moi, je suis confiante. Nous, on le voit tout le tour de chez nous, on a de la chance d'avoir une commune où il y a énormément d'industries, énormément d'emplois. Et malheureusement, aujourd'hui, ces usines et ces industries ont du mal à trouver des gens pour travailler. Donc, c'est vrai que ces gens, peut-être que, aller au travail, découvrir la vie des entreprises... Et peut-être que tout ira mieux. Et j'ai presque envie de dire aussi, allez voter, parce que c'est bien beau de ronchonner, mais quand on ne va pas voter, pour moi, on n'a pas le droit de se plaindre après.
Mais peut-être qu'on ne va pas se plaindre.
Voilà.
Et peut-être d'avoir une mairesse, une madame le maire, et un maire, parce que vous avez beaucoup d'équipements, on n'en a pas assez parlé aux avenirs. Pour le bien des habitants. Cependant, vous savez, quand on habitue les gens dès l'école maternelle, le primaire, le lycée, à toujours faire à la place, toujours se soumettre, toujours se débrouiller par soi-même, quand les élus se sont toujours projetés en avant sans demander l'avis de qui que ce soit partout, sauf... faut pas s'étonner qu'à un moment donné, quand on a mis le peuple à une place zéro, le peuple n'ait pas envie de prendre la place. Ce qu'il faut, c'est que le peuple puisse décider, co-décider avec les élus. Et là, ça nous emmène sur un terrain.
Ben voilà.
Mais
c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire.
Je suis tout prêt à vous donner tous les documents, tout ce qu'il faut dans l'histoire de France, comment des communes un peu partout ont fait participer, disons, entre 10 et 30, 35, 40% de leurs habitants, non pas à la consultation. Voulez-vous un centre-ville végétalisé ? Non, on n'en veut pas, on veut des bagnoles. Mais faire participer les habitants à toutes les décisions principales. Hein. On ne va pas les emmerder parce qu'on va augmenter un employé communal, choses comme ça. Mais sur les décisions clés, vraiment, faire des référendums d'initiatives communaux. RIC. Pourquoi pas ? Un RIC qui dirait « personne ne gagne plus de 10 000 ». C'est la loi du peuple terminée. On ramasse le pognon. Un RIC municipal disant « il va faire chaud, il est vital que toutes les terres aux alentours fassent de la permaculture et absorbent la chaleur par l'agroforesterie avec beaucoup de... » Voilà. Non ?
Oui, oui, après...
Après, il faut le faire, hein.
Après, il faut le faire. Attention, c'est pas si simple.
On fait un grand débat là-dessus un jour. Hein.
Voilà. D'accord.
Ouais,
merci.
Ce qu'il faut, c'est faire que la population ait du débat. Et c'est une des choses importantes des avenirs. Hein. On reste là-dessus.
C'est ça.
C'est, par exemple, à Montsartou, le maire, pendant 40 ans, il a fait des débats deux fois par an. Il a invité toutes les personnalités du monde entier, Vandana Shiva, Naomi Klein, tous les grands, pour dire, voilà, climat, agriculture, autosuffisance alimentaire et énergie. Alors, c'est la question à laquelle vous avez échappé. S'il y a une panne géante d'électricité en France, comme ça se prépare, on fait quoi ? Si on a, comme au Texas, 8 jours sans la moindre électricité. C'est ce qui se prépare, hein ? Problème de la complexité.
Il faut rester positif dans la vie.
Ah, ah, on va y arriver. Fini là-dessus. Merci, Madame le maire. J'ai été très content de vous recevoir, toutes les deux, là. Et je sens que, bon, il va se passer des choses aux avenirs avec Madame la maire déléguée et Madame la maire. Il va certainement se passer des choses. On sent bien qu'il faut faire avec le peuple.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.